22h22, c'est 2 degrés sur Québec, ça va se réchauffer, comme je vous disais tout à l'heure, ça pourrait monter jusqu'à 12 aujourd'hui. 60% de probabilité d'averse, ce serait en après-midi, même possibilité d'orage, les amis. Connais-toi les charges.
Oui, hein? Exactement. C'est le côté positif. On a besoin de ça.
Oui. Max, le Canadien de Montréal, ça part ce soir, 19h, on aura l'occasion d'en reparler. 418-971-1021, 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Si vous avez des choses à nous dire, ça passe par là. Merci d'être nos yeux, nos oreilles, c'est par texto.
À date, sa route, là, c'est beau, beau, beau.
Les News, 1021.
On est le 8 mai 2026, tu nous apprends quoi ce matin?
C'est cette nuit que ça va peut-être tout péter, Marceau.
Oh!
On lance le dossier santé numérique.
Ah, arrête!
Ça devrait bien se passer relativement. Mais là, on a de nouvelles informations qui nous arrivent. On nous apprend que le projet pilote du dossier santé numérique va coûter 100 millions par année en exploitation. Ça, c'est juste pour le projet pilote, là, juste pour ce qu'on les premières places où on va le lancer. C'est un montant qui est dévoilé pour la toute première fois, selon Radio-Canada, et ça vient s'ajouter au coût de développement de 402 millions. C'est le journaliste Thomas Gerbet là, qui nous précise tout ça, nous dit que le coût de développement à 402 millions, ça, on l'avait, ce chiffre-là. C'est déjà beaucoup plus élevé que la facture qu'on devait avoir à la base pour ça, qui était de 265 millions. Mais cette facture-là comprenait pas le coût d'exploitation. Une facture d'à peu près 100 millions donc par année qui comporte des coûts de licence, d'hébergement, mais aussi de salaire des équipes qui ont été constituées pour soutenir les utilisateurs. C'est ce qu'explique Santé Québec via son site web. Radio-Canada qui note que pour rassurer les à peu près 30 000 employés qui vont utiliser le DSN, Santé Québec a mis en place une armée, dit-on, là, de travailleurs en soutien, soit 3 200 personnes, dont 400 experts informatiques. Et bon, pour les coûts, quand le dossier santé numérique sera étendu partout dans la province, quand ça va se faire, ben, les coûts pourraient dépasser 2,5 milliards. Et ça, c'est seulement en développement, sans comprendre les coûts annuels en exploitation. Fait que ça va coûter cher. Espérons que ça marche bien.
La grosse nouvelle du jour, Jeff. C'est ouais. Pas ce que Max vient de dire. Là. La grosse nouvelle du jour, c'est que Desjardins, en hypocrite,
ouais.
Cette nuit, on fait plaisir à toutes les clients de Desjardins. Votre solde de carte de crédit est revenu normal.
On comprend à cette heure ce qui se passe. Comme là, je viens d'y aller, là, j'ai pu payer ma carte de crédit en sachant que le montant qui était écrit, c'est exactement ça qu'il fallait que je mette, puis tout était beau.
Tu sais, moi, je paye toujours avec ma carte de crédit, puis quand j'arrive le soir ou une fois par semaine ou deux fois par semaine, je m'en vais payer mon solde total. Man, j'ai jamais été capable de payer mon solde total. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois? Là.
Ouais.
À chaque fois, là, ça me disait que j'en donnais
maintenant,
trop
je
ou pas assez. Il y a quelque chose que je comprenais pas. J'aurais dû me le faire expliquer, mais regarde, ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais cette nuit, ils ont fait ça en hypocrite.
On est fiers.
Ils nous ont tous fait plaisir. Donc, merci beaucoup à Desjardins d'avoir mis ça normal.
Mais pourquoi ils l'ont fait en hypocrite? Moi, je leur ai annoncé.
Ben, ils l'avaient annoncé il y a plusieurs semaines
okay.
Qu'ils allaient le faire. Mais
ah,
que là,
j'ai manqué ça.
Ça a l'air que c'était bien compliqué, là. Ça a l'air que c'était bien compliqué de le remettre comme avant.
Parce que moi, il me semble, j'aurais dit, on vous a écouté, chers clients de Desjardins.
Ben, j'espère.
On a.
Moi aussi, c'est ce que j'aurais fait. Surveiller ce soir le solde de revient,
ben oui.
Tu te fais jaser. Là.
Ben oui, ben, positivement, t'as tellement fait jaser négativement.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste nous autres qui en parlent. Il n'y a personne d'autre qui s'en sont rendu compte.
Peut-être
qu'on l'annonce à nos clients.
Peut-être qu'ils voulaient être sûrs que ça allait marcher puis qu'ils vont l'annoncer dans les prochaines heures.
Ah, peut-être.
Parce que peut-être que.
Mais là, j'ai fait le tour des sites de nouvelles. Il n'y a personne qui parle de ça. Là.
Bon, ben, on a le scoop.
On a le scoop!
Merci à la personne qui Woohoo! Nous a écrit par texto.
Non, ça vient de Jeff, cette information. C'est notre journaliste enquêteur.
Pantoute, ça vient d'un auditeur.
C'est notre journaliste enquêteur.
Là, je commencerai pas à prendre de crédit pour ce qui m'appartient pas.
Ça vient directement de l'équipe d'enquête de Boulevard.
C'est Mathias?
Non, c'est nos auditeurs.
OK.
C'est citoyen commercial BLVD.fm.
Oui.
Je reste un peu dans le suivi Santé Québec. En fait, on est dans un autre dossier de système informatique qui a un peu chié. L'Autorité des marchés publics qui a formulé 6 ordonnances à Santé Québec et au ministère de la Santé concernant des lacunes dans la gestion budgétaire et contractuelle du projet de système d'information en finance et en approvisionnement, le SIFA, dont on s'était déjà parlé. L'AMP qui explique que les ordonnances ont pour objectif de s'assurer que dans l'éventualité où Santé Québec poursuivrait le projet projet. Tout octroi de contrat additionnel ainsi que la gestion du contrat en cours ne modifie pas la portée initiale du projet, respecte le cadre normatif contractuel et que Santé Québec mette en place une structure de gouvernance adaptée au projet SIFA, transparente et conforme aux principes de saine gestion des fonds publics. La majorité des ordonnances qui visent Santé Québec, parce que c'est comme là qu'ils sont les pouvoirs actuellement, mais quand même, l'AMP estime que le ministère de la Santé minimise ses responsabilités et n'a pas agi de manière à assurer la bonne gestion des fonds publics à titre de responsable de l'actif SIFA et de la gestion budgétaire. Le contrat initial du projet SIFA, qui était de 408,7 millions, l'analyse de l'AMP, qui révèle notamment que les coûts de développement initialement évalués à 96,2 millions en 2022 ont explosé pour atteindre une estimation de près de 300 millions en février 2026. Donc, un autre programme qui a super bien été, qu'on a suspendu, qui continue de nous coûter cher pendant qu'il est suspendu. Et là, l'AMP dit, mettons que vous voulez le reprendre, là, voici la marche à suivre, voici ce que vous devez faire. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé hier un investissement de 28 millions de dollars visant à contrer l'itinérance en Outaouais, dans la capitale nationale et dans la région de Montréal. L'enveloppe qui doit permettre d'agir sur plusieurs leviers pour contrer l'itinérance, l'accès au logement, la santé mentale, les dépendances, la prévention et l'accompagnement, nous dit-on. Bruno Marchand, lui, qui parle d'un pas dans la bonne direction, en particulier pour ce qui est de la notion de logement accompagné. Là, il y a comme une petite... un petit moment où tout le monde était mêlé, là, puisqu'au moment de l'annonce, la première ministre a mentionné vouloir sortir 4000 personnes de la rue en 2026, mais elle s'est rétractée plus tard via ses réseaux sociaux pour revenir au nombre de 5000, ce qui était la cible qui avait été établie par le ministre Carman en avril 2025. Le cabinet, d'ailleurs, du ministre Carman, qui dit être en bonne posture pour atteindre l'objectif de 5000 personnes sorties de la rue pour l'année 2025-2026. Les chiffres officiels qui seront disponibles dans les prochaines semaines, l'année 2025-2026 s'étant officiellement terminée le 21 mars. Le problème, c'est que même si on en sort, ben, il y en a beaucoup qui continuent d'entrer.
Oui, puis une des problématiques avec l'itinérance, c'est qu'on a bien beau dire « Hey, j'en sors 5000 », mais le calcul qu'on devrait faire, c'est combien j'en ai sorti versus combien sont rentrés. Puis là, dire « OK, c'est beau, je viens de diminuer l'itinérance, exemple, de 1000 personnes. » Parce que dans la dernière année, même si t'en as sorti 5000, on est rendu à 12 000 itinérants. Fait que tu peux pas crier « victoire ».
Très bon point. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je réfléchissais à ça ce matin parce qu'il y a un article quand même assez intéressant de Simon Clich dans Le Soleil de ce matin. Et j'étais dans ma voiture puis je me disais, crime, t'sais, on dit beaucoup faut sortir les itinérants de la rue, ça leur prend un toit sur leur tête. Mais quand tu es toxicomane, quand tu es alcoolique, la priorité, là, ça devrait être de te rentrer dans un endroit pour régler ta problématique avec des gens qui sont autour de toi, qui sont bienveillants, qui sont là pour te soigner, qui sont là pour faire des meetings. 30 jours après, là, tu l'auras, ton logement, si tu as passé au travers du programme au complet.
Je suis tellement d'accord avec toi parce que tu vas avoir n'importe qui dans ton entourage qui a un toit, mais qui a un gros problème de toxicomanie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'envoyer en thérapie?
Ben exactement. Sa vie est un bordel.
C'est ça.
Ça va être un bordel. Tu vas l'envoyer dans une maison, il va continuer à boire. T'sais, règle son problème avant.
Oui.
Aide-le à régler son problème. Puis il faut que ça vienne de lui, là, d'abord et avant tout, s'il veut s'en sortir, parce que tu ne peux pas l'obliger. Mais après ça, il trouvera un toit.
Oui, puis selon la.
On se ramasse avec des endroits, Jeff, où c'est des asiles psychiatriques. C'est des logements supervisés qui deviennent des asiles psychiatriques dans lesquels il y a des gens qui sont alcooliques, il y a des gens qui sont toxicomanes. Les intervenants ont de la misère à rentrer là parce qu'ils ont peur. Ils veulent être accompagnés parce qu'il y a beaucoup d'intervenants féminines. Ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Les infirmières ont de la misère aussi à rentrer dans ces immeubles-là. Fait que là, je comprends pas pourquoi on travaille à l'envers, mais regarde, on a toujours utilisé la même recette, puis on espère qu'un jour, le résultat sera différent. Einstein disait que c'était de la folie. Voyons voir s'il avait raison. Max?
Les fonds des réseaux de transport terrestre, le FAR qu'on appelle, du gouvernement du Québec, qui sert à l'entretien du réseau routier, atteindrait un déficit d'1,8 milliard cette année. C'est le constat d'un rapport de l'Alliance Transit, un regroupement d'organisations qui défendent le transport collectif. Selon le rapport, 24,5 milliards seraient nécessaires pour combler le déficit d'entretien des routes qui sont gérées par le ministère des Transports, alors que 8,4 milliards sont prévus dans le budget du gouvernement du Québec. Les dépenses du Fonds des réseaux de transport terrestre ont grimpé 5 fois plus vite que les revenus, expliquant le manque à gagner qui s'accentue de plus en plus et la solution proposée par l'Alliance Transit. Puis bon, comprendrez que c'est un groupe qui a une certaine idéologie, là. Fait que là, on prend les chiffres, puis après ça, on amène des solutions qui vont peut-être avec notre idéologie. Mais c'est le concept d'utilisateur payeur avec des systèmes de péage. Rappelons qu'un récent sondage Léger nous apprenait qu'un Québécois sur deux serait favorable au retour des péages sur nos routes s'il permettait de mieux entretenir nos infrastructures routières. Éric Duhaime accuse le Parti libéral du Canada de vouloir tripoter les règles à son avantage en cas de référendum sur la souveraineté d'une province, que ce soit l'Alberta ou le Québec. Cité par le journal, le chef du Parti conservateur du Québec lance qu'Ottawa se permet de brandir la loi sur la clarté référendaire parce que le fédéral a profité de la faiblesse du Québec au lendemain du référendum. Il déplore que les membres du gouvernement Carney veulent contrôler les questions qu'on peut poser au monde et veulent eux-mêmes interpréter les résultats comme si on ne peut pas faire confiance à la population, comme si on ne peut pas faire confiance aux provinces. M. Duhaime fait référence aux récentes sorties du premier ministre Carney et de son ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser. Ce dernier qui a affirmé que les parlements provinciaux et le parlement fédéral ont tous deux un rôle à jouer dans les discussions aussi importantes pour l'unité nationale qu'un référendum sur la sécession. Fraser a été clair, Ottawa va insister pour qu'il y ait conformité avec la loi sur la clarté référendaire. La notion de majorité claire reviendra donc vraisemblablement à l'avant-plan dans les débats. Là, je lisais la sortie, moi, j'étais sûr que c'était Paul Saint-Pierre, Plamondon, mais non, c'est Éric Duhaime qui sort ce matin pour frapper sur le fédéral. D'ailleurs, on reste au fédéral en terminant. C'est un texte du Devoir ce matin, une entrevue avec Stephen Guilbeault, qui est, je le rappelle, maintenant simple député libéral, a quitté le cabinet Carney comme ministre parce qu'il y a certaines affaires qui ne faisaient pas son affaire. Et là, le titre dans le Devoir ce matin, c'est « Ottawa a le bras dans le tordeur pour avoir promis un pipeline ». Donc, ce que Stephen Guilbeault dit, c'est que si le pipeline va de l'avant, mais sans les conditions énumérées dans l'entente avec l'Alberta, ben, il risque d'avoir un certain ressac dans plusieurs coins du pays. Mais si le pipeline ne va pas de l'avant, la première ministre Smith dira que le Canada ne fonctionne plus. Est-ce que Stephen Guilbeault pourrait décider de quitter le Parti libéral du Canada? Ben, il y a des propos qui sont rapportés dans l'entrevue avec Le Devoir qui laissent croire que c'est pas impossible si Mark Carney revient sur sa parole sur certains points. Dit Stephen Guilbeault que c'est assez clair pour lui depuis le début et c'est dans l'entente qu'il y aura une participation autochtone. Là où lui veut tracer la ligne, c'est si le gouvernement fédéral décide d'utiliser l'un ou l'autre des nombreux mécanismes à sa disposition pour venir changer les règles du jeu. Hier, CBC News nous apprenait qu'Ottawa prévoyait de proposer des modifications qui rendraient plus facile l'approbation et plus rapide la mise en œuvre des projets liés aux ressources naturelles comme des pipelines, justement.
Les sports.
Hey boy! La game est à quoi? 19h ce soir. Il reste 12h25 avant que ça parte.
Colin,
on a-tu out?
Oui, on a out. On a très out.
Le Canadien va-tu sortir fort, Max? On va-tu trouver les stratégies nécessaires pour bloquer les gars qui sont plus gros, qui sont plus forts, qui sont plus vite que notre équipe?
Moi, ce que j'ai prédit hier, c'est une autre victoire des Sabres ce soir.
Un beau salaud.
Avant que le Canadien reprenne...
Victoire de 3-2 ce soir.
Victoire de 3-2? Moi, je dis défaite de 3-2.
Ouais. Victoire de 3-2 du Canadien.
Ah, moi, j'ai dit que le Canadien frappe un mur à soir. Avant de peut-être rebondir, mais c'est 6-1 Sabres ce soir.
Deux beaux salauds.
Non, mais attends, ma stratégie, c'est clair. Là. C'est que le Canadien repère déjà des bons ajustements ce soir. Ça va être un bon match serré, mais on va l'échapper en prolongation 3-2.
Non.
Après ça, on va arriver au Centre Bell. L'énergie de la foule va donner 3 pouces de plus à chaque gars.
Oh!
Puis là, on va être en mesure de rivaliser avec les Sabres. On va aller gagner les deux matchs au Centre Bell. Après ça, Dobesch va la voler à Buffalo. On va prendre les devants 3-2 dans la série. Match numéro 6, on revient au Centre Bell, on reprend 3 pouces chaque, puis on gagne la série en 6.
Tu sais que quelqu'un a déjà fait une belle carrière en faisant des prédictions comme tu les fais là présentement?
C'est-à-dire?
Elle s'appelait Jojo Medium. Tu pouvais l'appeler au téléphone, puis il demandait, bon, ben, moi je suis scorpion, je suis né le 17 novembre, je voudrais savoir, côté argent, comment ça va aller. Puis là, Jojo, elle disait comment ça allait aller pour les prochains jours. Tu pourrais peut-être faire ça. Tu pourrais peut-être être Jojo Max.
Non, parce que ce que je dis, c'est rare, ça arrive.
Elle aussi.
Ah bon, ben d'abord.
T'as jamais remarqué qu'elle écrivait une fois de temps en temps sur mon Facebook?
C'est vrai,
ben oui,
c'est ton ami?
Elle participe aux discussions. Ben, je sais pas, elle m'en est arrivée. Elle participe aux discussions, puis elle est tout le temps de bonne humeur. Jojo Medium, c'était quelque chose, là. Elle était avec M. Mongrain. Pas Jean-Luc, c'est-tu Guy Mongrain?
Ah oui. Hein?
C'était l'émission, ça, je pense que ça s'appelait Café Chaud. C'était comme le début de Salut Bonjour. Là. Puis elle allait là, puis elle parlait des prévisions astrologiques. Quelle arnaque.
Ouais.
Mais elle avait l'air tellement gentille.
C'est ça.
Une grande blonde. Tu t'en souviens, hein,
Jean-Luc? Ben oui. Ben écoute, oui. Quand t'as l'air gentil, tu peux dire plein de choses.
C'était Café Chaud avec Jean-Luc Mongrain.
Café Chaud avec Jean-Luc Mongrain, ouais. Mais il y avait aussi. Guy Mongrain qui a animé ça. Guy Mongrain qui a animé Café Chaud, puis il doit avoir animé aussi les débuts de Salut Bonjour.
Guy Mongrain a animé Salut Bonjour pendant longtemps, 13 ou 14 ans, si je me trompe pas.
Après ça, ça a été...
Ben, ça a été tout de suite Gino Chouinard.
Non, ils ont voulu Benoît Gagnon avant.
C'est vrai, t'as raison, ça n'a pas duré longtemps, Benoît Gagnon, deux ans à peu près.
Ouais, il y avait des drôles de nuits, est-ce qu'on nous a dit.
Ouais, ben c'est ça, il rentrait, puis il sentait pas toujours le neuf.
Ouais.
Fait que là, il se disait, ouais, tant qu'à avoir cette odeur-là, on va
peut-être... Benoît Gagnon, c'est notre max au karaoké.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est parce que le problème, c'est que c'était le max au karaoké du lundi au vendredi.
C'est ça.
Quand il fallait qu'il rentre à 2h30, 3h dans les studios de TV.
Ouais, il y avait une drôle de vie.
Lui, c'était pas une sieste après Salut Bonjour, c'était sa nuit.
Fait que là, moi, je vais avec le Canadien 3-2. Vous autres, vous êtes du côté des Sabres
ce soir.
Ah
oui, les Sabres vont piler sur le Canadien ce soir. Ils sont gros, sont forts, sont agiles. Après, le Canadien va rebondir un peu puis on va avoir un semblant de série.
Par texto, 88-971-1021, c'est quoi vos prédictions pour ce soir? Sinon, y a-tu d'autres choses? Hey, les capitales, capitale de Québec.
Oui. Commence ce soir.
Ouais.
À Ottawa.
C'est moi le gars de sport ici.
Ben, je l'avais pas vu venir, tu fais bien de me le dire.
Je l'avais pas vu venir.
C'est un séjour de 15.
L'horaire est sorti, ça doit faire 6 mois.
Ben oui, mais dans le sens où je savais pas que c'était aujourd'hui. C'est un séjour de 15 matchs à l'étranger pour les capitales de Québec, comme à chaque début d'année. Donc,
ici, fait encore trop fret.
Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, quand on avait parlé avec Charles Demers, le président de l'équipe, il disait que Patrick Scalabrini aime toujours commencer l'année comme ça à l'étranger parce que ça permet de souder l'équipe. Beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs cette année et 7 nationalités différentes dans le vestiaire. Ils ont des interprètes japonais qui les suivent. C'est complètement fou. Le premier match au stade Kallax sera le 26 mai prochain. Encore des billets disponibles pour la première rencontre.
On est rendu à combien de championnats de suite?
C'est
3 ou 4?
C'est 4. C'est 4 parce qu'on était la poutine à 3 piastres pour 3 championnats de suite, mais on l'a gardé pareil à 3 piastres.
As-tu l'impression qu'il pourrait avoir une ligue supérieure au capital?
Bien, honnêtement, la ligue présentement, c'est la meilleure ligue de baseball indépendant. J'ai l'impression qu'il pourrait la scinder en deux, entre des équipes plus faibles et des équipes plus fortes. Le problème, c'est au niveau de la géographie. C'est parce que s'ils faisaient ça, les capitales seraient pognées à aller dans l'Ouest 2-3 fois par année. Ça coûterait trop cher. Fait que c'est juste pour ça qu'ils ne le font pas. Parce que c'est un regroupement de deux ligues. Hein. À l'époque, la Ligue CANAM, qui était à 8 équipes, qui s'est regroupé justement, qui est entré dans la Ligue Frontière. Puis là, on a vraiment créé l'Est et l'Ouest pour donner un meilleur calibre de jeu. Mais malgré ça, Crime, les capitales viennent d'avoir 4 championnats en ligne. Fait que c'est signe que l'organisation est vraiment top. Là.
Sinon, autre chose, Max?
Ouais, bien, dans la LNH, il y a beaucoup de stock quand même. Ce soir, la série entre les Golden Knights et les Ducks qui se transportent à Anaheim dès 21h30, c'est 1-1 pour cette série-là. Les Flyers de Philadelphie, eux, qui feront face à l'élimination dès demain, 18h, après une défaite de 4-1 hier face aux Hurricanes. C'est pas compliqué, là. Les Canes donnent absolument rien aux Flyers dans cette série-là. La LNH qui a dévoilé hier l'identité des finalistes au trophée Norris, qui est remis au meilleur défenseur du circuit. C'est Carl Makar, Zach Werenski et l'excellent Rasmus Dahlin. Et là, ce qui est particulier, c'est toujours un genre de débat avec ce trophée-là. C'est tout le temps des défenseurs offensifs qui le gagnent. Mais là, Evan Bouchard est laissé de côté des finalistes alors qu'il y a 14 points d'avance sur le deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs. Fait que oui, Evan Bouchard est pas bon défensivement, mais qu'il soit pas d'un finaliste avec 14 points d'avance sur le deuxième défenseur, c'est un peu weird. Là. Quinn Hughes et Lane Hodgson qui ont aussi été écartés, même si les deux ont plus de points que Rasmus Dahlin. C'est pas juste les points qui comptent, mais quand même, souvent, ça a un bon impact.
J'ai des prédictions qui sont rentrées par texto. 2-1 Canadien. Après ça, j'ai Marty. Qu'est-ce qu'il dit, Marty? Canadien 3-2 en temps régulier. Un but de Caulfield, match serré et la perte de Goulet par une blessure en deuxième période. Hey, j'espère juste que ça arrive. Pas, ça.
Non.
Ça m'est arrivé à moi personnellement. J'ai un de mes chums qui s'est fait opérer au nez C'est un gars de la base militaire. Il s'est fait opérer au nez. Puis il a pas joué avec nous autres au hockey pendant une couple de semaines. À son premier match, il avait pas mis de demi-visière, il avait pas mis de grille. Puis il l'a reçu carré d'en face. Mais avant le match, j'ai check bien ça. Si tu ne le reçois pas carré d'en face à ton premier
puis
match.
Puis il l'a reçu carré d'en face.
Je suis sur le banc, puis je vois le shot partir, puis il le reçoit carré d'en face. Tu te sens-tu mal?
Mais hein. Moi, à fin, au deck, je joue avec une grille complète.
Ouais.
Parce qu'avec les nouveaux bâtons, là.
Ça rentre.
Ben là, tu sais que j'ai des nouveaux bâtons qui sont plus nouveaux, là.
Ouais.
Mais qui s'améliorent à chaque année, je trouvais que la balle a rentré
moi,
en tabarouette.
J'ai une demi-visière un petit peu plus longue que la moyenne.
Ouais, ça pourrait faire.
Fait que quand il y a un shot qui arrive, ben, je me baisse la tête. Denis qui dit: moi, c'est 5-3 Canadiens, but gagnant de Goulet ce soir.
Oh!
OK.
3-2 aussi Canadiens.
Ouais, on avait aussi des sabres qui étaient rentrés.
Ça ferait du bien à Caulfield d'en scorer un, là, juste y enlever un petit singe de ses épaules. Là. Parce que là, il doit la trouver tough. T'sais, nous autres, on en parle beaucoup.
Ben oui.
Imagine lui comment ouais, il se sent. Là.
C'est
les
clair.
Sabres gagnent ce soir. Montréal a en gagne une à la maison.
Ouais.
Sabres une à Montréal. Sabres finit ça chez eux en 5. Moi, j'avais dit Canadien en 5. C'est mal parti, là, mais...
Moi, j'ai dit Sabres en 6. Je pense que Max va voir malheureusement l'élimination de son Canadien. Mais au moins, ils vont pouvoir être debout à la fin du match et applaudir
oui.
pour la belle saison
c'est
de son équipe
c'est
et
clair.
Avoir du fun.
6-43, on vient.
Pour nous informer de ce qui se passe